Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le saviez-vous? Tout ce qui est là n'est pas forcément là. En conséquence, et en forme de démonstration, le poste général est heureux et fier de vous présenter le plat du dimanche. Avec les deux stars internationales, Wales Gaillère et Vincent Malone, de la Académie française.
Mais bonjour, Wael.
Hey, coucou, comment ça va?
Mais ça va, je te remercie. Mais avec qui es-tu venu? Je la reconnais pas avec son masque, c'est qui?
Émilie.
Émilie?
Oui.
On se connaît, Émilie?
Pas encore, hein, mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse partager un petit punch.
Un punch?
Je lui ai dit que tu étais très drôle.
Quoi?
Que tu étais très drôle.
Jadis, tu fus drôle.
Oui.
C'est pourquoi je suis venue.
Ok.
Imparfait du subjonctif.
Écoute, je te laisse retirer tes chaussures.
Moi, j'ai mis des super chaussettes aujourd'hui.
Oui.
Elles sont mauves. Mauves. Mais comme je suis daltonien, j'ai vraiment.
Moi, j'ai des chaussettes à paillettes.
Allez, on avance, on va directement dans la cuisine. Et voilà, nous sommes dans la cuisine. Nous avons la chance aujourd'hui, enfin une chance...
On verra.
d'accueillir...
Émilie Leistari. Mais même si mon état civil, en vérité, c'est Nguyen. Et il y a beaucoup de Nguyen en France, donc j'ai opté pour ce pseudonyme.
L'histoire incroyable d'Émilie Leistari.
Ta-na-na-na. Il était une fois en probablement 2003-2004, j'étais au lycée et je devais rendre un dossier en fait pour passer en première, SES ou voilà. Et donc dans ce dossier, il fallait inscrire une adresse mail. Sauf que la veille, des amis assez blagueurs m'avaient complètement détourné ma boîte mail en répondant à la question secrète. Vous vous souvenez de l'époque où il fallait répondre à une question
secrète? Il y a encore des fois des questions secrètes pour certains trucs.
Oui, ouais. Sauf que maintenant, on a tous en tête qu'il faut un vrai mot de passe solide et puis pas mettre des questions secrètes trop simples, genre où es-tu né, ou premier nom de ton chien, ou nom de jeune fille de ta mère.
Attends, je ne connais vraiment pas le premier nom de ton chien, tu peux y aller tranquille. Hein, là-dessus.
Toi, non, mais ça, non, mais ça peut savoir très vite.
Ouais. Okay.
Et du coup, mon adresse mail de l'époque avait été piratée, tout simplement. Et mon professeur principal, donc là, à ce moment-là, on est en seconde, il me dit « Non, mais c'est quoi ce truc-là? T'es incapable d'inscrire une adresse mail? T'en as plus, là? Enfin, t'as 5 minutes pour descendre en salle informatique et tu vas me faire ton adresse mail rapido. » Donc, je descends en salle informatique et je tape emily.nguyen@gmail. Enfin, j'essaie de me créer une adresse mail. Sauf qu'il y a tellement de Nguyen en France que, évidemment, emily.nguyen s'est pris. Nguyen s'est pris.
Ouais, il faut mettre Nguyen 38780.
Voilà,
quoi.
Et je voulais pas faire ça parce que je ne suis pas née dans les années 70. Donc, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé des lettres au hasard, vraiment très rapidement, en me disant, voilà, comme ça c'est réglé, j'aurai une adresse mail, je vais remplir le dossier, et puis voilà, on verra plus tard. Et puis c'était illisible, parce qu'il y avait des consonnes, des voyelles, tout était mélangé.
Les chiffres et les lettres.
Voilà.
Ouais.
Et donc j'ai enlevé les trucs qui modifiaient la lecture, quoi. Et ce qui est resté, c'est Leistari. C'est le mot qui est resté.
Mais quelle belle histoire.
Ah oui, mais moi j'apprécie, mais parce que j'apprends des choses.
Ça aurait pu tenir en 4 mots, mais là, on l'a eu dans son intégralité, quoi. Il nous manque le nom du prof.
C'est une histoire de vie.
Est-ce que tu avais une meilleure copine à l'époque?
Ouais, Éléonore.
Un petit copain ou un amoureux?
Pas encore. Pas
rien, zéro?
Non.
Qu'est-ce qu'elle fait, Éléonore?
Éléonore, aujourd'hui, elle vit toujours dans le nord de la France. Okay. Et je sais pas exactement ce qu'elle fait, tu vois. Il faudrait que je prenne contact à nouveau avec elle.
L'histoire incroyable d'Éléonore.
Bientôt.
Alors, Émilie Leistari, au prénom incroyable et au nom encore plus invraisemblable, tu as une recette à nous montrer pour le plat du dimanche?
Ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs une recette d'apéro.
Donc on fait un apéro.
Ouais, un apéro du dimanche, là.
D'accord, et ça s'appelle comment?
Dadinho de tapioca. Alors longtemps j'ai dit dadinho, mais en fait en portugais on devrait plutôt dire dadinho.
Donc, Émilie, tu es ici pour nous faire une recette de...
Dadinho de tapioca. Oh là là, je l'ai dit avec l'accent, comme si j'étais super sûre.
Ouais, ouais,
super
sûr.
C'est pas du tout ça.
Bon, ok. Et là, on est content que tu viennes faire une recette de tagine et de tapioca, mais on est surtout content parce que normalement, tu parles directement toi dans ton micro pour faire tes propres podcasts.
C'est vrai. Exact.
Mais là, tu me dis le nom du podcast, ça fait moderne.
Bouffon, produit par Nouvelles Écoutes, un podcast qui sort une fois par semaine, mercredi, et dans lequel je donne surtout la parole à des gens qui en savent beaucoup plus que moi sur la nourriture. Moi, je suis là en tant que journaliste société, très curieuse, donc je leur pose plein de questions.
T'as une formation de journaliste ?
Ouais.
Ah.
T'as l'air déçu ?
Non, pas du tout. Mais non, pourquoi je serais déçu ? Tu rencontres des gens et tu parles de quoi avec eux, du coup ?
On parle d'alimentation, mais on parle surtout de faits de société à travers l'angle de l'alimentation.
Oui, parce que le dernier parlait, en fait, de quelque chose de toxique dans les bananes, en fait, c'est ça ?
Ah, exact, oui. On a parlé du chlordécone.
J'adore le nom, chlordécone. On dirait un titre de film porno, un peu, non ? C'est tellement débile ce que je viens de dire.
Je coupe.
Attends. Désolé. Je coupe tout de suite, ça sera plus simple. Voilà, ça c'est fait.
Merci.
Celui-là, je l'ai viré.
C'est un pesticide qu'on a utilisé pendant très longtemps dans les Antilles françaises, pendant 20 ans. Et à l'époque, a priori, on savait déjà que c'était très toxique parce que ça polluait énormément, ça contaminait les eaux aussi et les corps. Et finalement, on l'a fait parce qu'à l'époque, comme la banane, c'était quand même le fleuron économique le plus important des Antilles françaises, on a continué à utiliser ce pesticide parce qu'on voulait assurer les rendements. Mais on savait déjà, a priori, parce qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques, on savait que c'était hyper craignos. Et on s'en rend compte aujourd'hui encore plus parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent ce que ça a généré comme maladie chez les hommes et les femmes qui travaillaient dans les bananeries.
Alors, puisqu'on fait un apéro, moi, je veux bien qu'on le fasse sur de la musique. Et en plus, tu m'as apporté Lala...
Lala Ace.
Je connaissais pas du tout, moi.
Lala Ace Super Sweet 16. Et pourquoi tu m'as apporté Lala Ace Super Sweet 16 ?
Parce que j'aime beaucoup ce son. En fait, je trouve qu'il y a un côté cuisine, en fait, là-dedans. Okay. Pas au sens littéral, hein. Il n'y a pas des bruits d'ustensiles de cuisine. Mais en fait, vous allez voir, il y a plein de moments où on ne comprend pas très bien ce qu'elle dit. Et sa voix, du coup, les mots deviennent presque comme des sons hyper texturés. Et en fait, c'est aussi parce que cette rappeuse de Lyon à la base, maintenant elle habite à Londres, elle est fan de ce courant musical qu'on appelle le chopped and screwed. Donc le truc de DJ screw, de vachement décélérer en fait les sons pour arriver à seulement 60 battements par minute. Et c'est un truc en fait hyper lent qui vient du sud des États-Unis où en gros ces gens-là ont pris des morceaux qu'ils aimaient bien et les ont juste vraiment étirés quoi. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui en écoutant ça boivent ce qu'on appelle de la lean. C'est un cocktail à effet un peu psychotrope. En fait, ils utilisent du sirop codéiné, du coup du sirop pour la toux ou des comprimés codéinés avec une espèce de soda violet et mélangent ensemble. Et ça, en fait, ça a un effet un peu euphorisant et c'est censé aussi vachement te laisser planer. Et ça va particulièrement bien avec donc, ce genre musical. Et elle en est très fan. Et c'est rare, en fait, d'entendre des meufs françaises, rappeuses, qui utilisent ce genre-là. Donc.
Ok. Voilà. Donc, on va attaquer les tagines de tapioca en version passage à la friteuse sur une musique de Lala Ace Super Sweet 16 en compagnie de la ravissante et très gentille et surtout extrêmement cultivée. Ça nous fait peur, on sait plus ce qu'on fout ici. Emily Lay ou Lays, comme vous voulez, Sterry.
Je parle pas trop, je fais des signes. Elle est nègre, je la dessine. C'est plus normal, c'est plus lent. C'est pas son birthday, man. J'ai fait un super sweet 16, bah. Y'a un galage dans la guitar case. J'suis habitué au cas bizarre. Où je t'attrape, toi, eux, j'en ai rien à faire, moi. J'suis avec 5 bitches, avec 2 BS. Y'a nos gros B, 2 B, 2 B. Une claire 4 noire comme un cookie. Si j'crie youpi, elle dans le bourré. Enlève ton gros nez de nos affaires.
J'ai la laine avec tout le maille. Fume un tissu vert. Dans mon nez qui pas de foufounet. T'es qu'un foutu reste. T'es qu'un Kit Kat qui veut la toutounette. Pourquoi t'es toutounette? Amène ta bitch, on va la tout goûter. Plat de foutu crème.
Tu as la laine avec tout le maille. Fume la tissu vert. Dans mon nez qui pas de foufounet. T'es qu'un foutu reste. T'es qu'un Kit Kat qui veut la toutounette. Pourquoi t'es toutounette? Amène ta bitch, on va la tout goûter. Plat de foutu crème.
Reste là la sur ses lèvres. Lock, lick, lick, comme si c'est sûr. Je mène comme baka sur le bien. Elles sont là, ça tourne beaucoup mieux. Avec la pote, c'est mon jojo, man. J'suis sur l'antenne avec Kitu. Tu vas moonwalk si j'fais pop. T'as jamais vu une bitch qui fait de même. Il y a bien à pas peur, ouais. Ebony, what's up, j'suis sur ses œufs comme son parking. Circulaire, baissé qui lance. Moi je vois ça, tu diras pas moi je sais pas, je sais pas, dans la baisse mise dans le poisson. Moi je vois ça, tu diras pas moi je sais pas, je sais pas, dans la baisse mise dans le poisson. Un par deux, par trois, un prochain projet, j'promets les grosses préférences. J'suis à la lane avec Tutu Maya. J'fume un tissu vert. Dans mon équipe, pas de foufounet. T'es dans un foutu S. T'es qu'un kick-cat qui veut la toutounet. Pourquoi t'es tout merde? Amène ta bitch, on va la toutouter. Sous plat de foutu crainte. J'suis à la lane avec Tutu Maya. J'fume la tissu vert. Dans mon équipe, pas de foufounet. T'es qu'un foutu S. T'es qu'un kick-cat qui veut la toutounet. Pourquoi t'es tout merde? Amène ta bitch, on va la toutouter. Sous plat de foutu crainte.
Alors, quels sont les ingrédients?
Les ingrédients.
Voilà, bah, c'était un peu ma question en fait. Tu les connais pas? Les ingrédients. Vas-y.
Ah oui, oui, ok.
Non, mais fais quelque chose d'un peu joli, toi, je veux dire.
Ok, vas-y.
Les ingrédients.
Le chiffre à retenir est 250.
250.
Millilitres de lait.
De lait.
250.
Encore 250.
Grammes de billes de tapioca. 250.
Bonjour, 250.
Grammes de parmesan.
Parmesan. Merci, Émilie. Et maintenant, la recette. Comment va-t-on faire cette dadinos de tapioca, Émilie?
Alors, d'abord, il faudrait s'assurer d'avoir un moule à cake. Cake, j'adore ce mot.
Moule à cake.
Moule à cake.
Eh, ça va, toi, le moule à cake?
Ok. Non, mais moule à cake, c'est quoi exactement?
Le moule, tu sais, un peu rectangulaire. Enfin, carrément même rectangulaire.
Rectangulaire, un moule rectangulaire.
Ouais, les moules à cake. D'un cake, tu fais 4 quarts. Tu fais 4 quarts dedans. Ou les jets de yaourt. Tu fais un moule à cake.
Je sais pas quoi.
Cake aux olives.
Tu as un truc en tôle.
Est-ce que vous connaissez iZombie?
Non.
Non, c'est un truc sur Netflix, c'est une série.
Ouais.
Où lorsque c'est des zombies qui tuent des personnes et elles aspirent leur cerveau et elles deviennent quelques secondes cette personne-là. Pour un peu se sentir mieux en société. Et j'ai l'impression que tu utilisais le cerveau de Michel Leb. Mais quelques secondes. Voilà, je pensais à ça en ce moment. Voilà, désolé, je l'ai lancé comme ça. iZombie, qui est une très mauvaise série, hein, mais on m'oblige à regarder ça à la maison en ce moment. Donc, voilà. C'est bien, Michel Leb.
Ça appartient à une époque.
On peut revenir à la recette.
Ok, Émilie Naïstari, comment fait-on maintenant avec tous ces ingrédients? Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit d'avoir un moule à cake que nous trouvons tout à l'heure, mais d'abord une casserole.
Tout simplement.
Et je fais quoi avec cette casserole?
Alors, on va faire chauffer les 250 ml de lait dans la casserole.
Oui.
Voilà.
Alors, bouillir ou chauffer? Comment?
Chauffer, on va attendre que des petites bulles se forment un peu à la surface du lait.
Et qu'est-ce qu'on fait d'autre?
On va incorporer les billes de tapioca, donc 250 grammes. Quand le lait commence à bouillir. Donc
ah, donc c'est un peu plus que des bulles. Il faut qu'il commence à monter. On fait gaffe qu'il ne monte pas en mélangeant.
Ouais.
Ah, la tapioca, c'est quoi exactement?
Alors, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce que c'était aussi. Je ne m'étais jamais posé la question avant. Mais les billes de tapioca, c'est fait à partir de racines de manioc.
Ah, c'est du manioc?
C'est
comme
du manioc.
Comme dans Koh-Lanta?
Oui.
Et ça a quel goût, le manioc?
Le manioc, ça a un goût, mais les billes de tapioca, pas trop.
Oui, mais le manioc, c'est
le
quel
manioc,
goût, le manioc?
Je dirais quand même sucré.
C'est entre la pomme de terre et le navet, mais un peu plus serré en bouche. Dans le sens où c'est beaucoup plus compact.
C'est compact comme une pomme de terre?
Oui, mais avec un goût de navet, un léger goût de navet, avec un arrière-goût de sucre, ouais.
Ouais.
Ok. Donc le tapioca est fait à partir du manioc, mais n'a aucun goût?
Ouais, en fait on l'utilise surtout parce que c'est une fécule, et ce qui est trop pratique, c'est que quand tu mets ça dans l'eau, ça gonfle. Ça prend le goût de ce que tu mets avec,
exact.
Et ça a une texture quand même qui est cool, hein, mais ça n'a pas un goût en soi.
Ok, alors qu'est-ce qu'on fait, Mimi? Tu t'éparpilles,
oui,
mes auditeurs
vrai.
Se barrent en courant, moi. Alors, attends.
Alors attends, bah, peut-être que je peux vous parler des origines de cette recette. Ah. Pendant que le truc qui
commence
à cuire. Ça va cuire combien de temps là, le tapioca?
Alors déjà, on va continuer à remuer par-dessus. Hein. On surveille comme un risotto.
Donc on met dans les 250 ml de lait, 250 grammes.
Ah, il n'y a que 250 de tout.
Ouais.
De
vous allez voir, c'est la recette la plus simple au monde.
250 à table pour bien faire.
Pendant qu'on attend que ça commence à bouillir, enfin que les tapioca, les billes de tapioca grossissent grâce au lait, je peux vous dire que les dadignots de tapioca, ça vient du nord-est du Brésil.
Attends, tu vas raconter l'incroyable histoire du tapioca. Non, du plat.
Du dadigno de tapioca.
L'incroyable histoire de la recette.
Alors, je crois que la raison pour laquelle on mange ça au Brésil, je crois que c'est né en fait de l'immigration japonaise.
Mais me regarde pas, j'en sais rien.
C'est bon que tu puisses rebondir, toi qui as fait une thèse là-dessus.
Oh, l'immigration japonaise, tu dis? Incroyable.
Ouais, il y a beaucoup de Japonais au Brésil.
Ouais, c'est ça, exactement.
Énormément.
Et en fait, vous allez voir à la fin de ces. Quand on aura fini de préparer ces dadignos de tapioca, on pourra les faire tremper dans de la sauce aigre douce. Et c'est hyper bon.
Là, c'est ça ton incroyable histoire, c'est tout? T'as dit. Oh non, mais là, t'es à fond, là, sérieux?
C'est une incroyable histoire courte.
Ah non, mais c'est même pas court, c'est juste, il n'y a rien, quoi.
C'est un haïku.
Là, je croyais qu'il y avait une histoire.
C'est un haïku, oui, oui, en hommage.
Non, mais en fait, disons que vraiment, c'est le genre de truc que j'adore, moi, en cuisine. C'est de me dire, c'est une recette, en fait, qui vient du nord-est du Brésil et qui aurait été aussi importée par une immigration japonaise. J'aime bien quand la bouffe, elle fait ça, tu vois, qu'elle raconte des histoires de gens qui bougent.
Cette histoire te suffit.
Ouais. Mais tu vois, en fait, pour rebondir sur cette histoire là,
il faut rebondir. T'es assez rebond, ok.
Ouais, je suis assez rebond.
Venez, l'émission trampoline.
Mais non, mais moi j'aime beaucoup quand tu vois à travers un plat, une recette, on se rend compte que en fait derrière ça, il y a des gens qui ont bougé. Bon, par exemple, maintenant, je suis installée à Marseille, et ce que je trouve rigolo, c'est que tous les Marseillais, Marseillaises ont un peu leur idée du meilleur camion à pizza, parce qu'il y a des camions à pizza partout à Marseille. Et ça, je ne savais pas trop dire d'où ça venait, mais en fait, ça vient des ouvriers italiens qui travaillaient à l'Estac.
À quoi ?
L'Estac, c'est pas très loin de Marseille, donc il y avait des grosses usines à cet endroit-là. Et c'est eux qui ont ramené avec eux les camions à pizza, si bien qu'aujourd'hui, il y en a vraiment partout et ça fait partie maintenant de l'identité marseillaise. Voilà, j'aime bien quand il y a des choses comme ça qui se mélangent.
Des croisements,
oui. Ou par exemple, au Pérou, il y a tout un courant de cuisine péruvienne et japonaise qui s'appelle la cuisine Nikkei. C'est génial en fait de se dire qu'il y a un pont comme ça en fait entre.
Mais c'est aussi les déplacements et le fait que cette côte pacifique soit plus proche de la côte japonaise.
Ouais, tout à fait.
C'est une cuisine, la cuisine péruvienne, c'est très très bon.
Ouais.
C'est la cuisine africaine moi qui me surprend plus souvent par sa qualité. C'est super bon, super fin, super voilà.
Bah ouais, parce qu'on n'est pas encore assez renseigné, mais heureusement il y a de plus en plus de chefs.
Il y a un chef étoilé hein, qui s'appelle Maurice Akko qui vient d'avoir une étoile au Michelin.
Oui.
Qui réinvente la cuisine africaine.
Bah voilà. Donc on a fait chauffer 250 ml de lait, oui, qui a bouillu un petit peu, ça commençait à monter, mais j'ai tourné comme il fallait avec ma spatule en bois, qui était propre, même si c'est jamais très très propre une spatule
en bois.
C'est
dur à nettoyer.
Non, c'est pas très bien.
Ouais.
J'ai incorporé tout seul, hein, aujourd'hui, ouais, il ne fait rien d'autre que de se gratter la tête et probablement un peu les fesses, mais je vois pas le bas de son corps, 250 grammes de billes de tapioca, donc j'ai un paquet de tapioca, faut dire, mais 250 grammes, donc toujours un quart de kilo maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Émilie?
Alors, du coup, maintenant, on va pouvoir râper le parmesan. Alors, soit on prend le gros morceau de 250 grammes et on râpe, mais bon, à l'huile de coude. Soit, j'avoue, j'ai déjà fait ça en week-end entre potes, juste acheter du parmesan déjà râpé.
Non, moi, j'aime tellement croquer dans un gros bout de parmesan de temps en temps que je préfère râper. Moi, mon parmesan, ça ne te dérange pas de toute façon.
On y va, alors.
Mais voilà. Tapioca, on l'achète où exactement? On trouve n'importe où.
Ouais, surtout dans les épiceries dites exotiques, dans le 13e à Belleville. Moi, j'en achète aussi à Jaurès.
À Jaurès.
On en trouve partout du tapioca.
Ah oui, d'ailleurs, effectivement, maintenant, on en trouve aussi dans les grandes surfaces de la marque Tipiac.
Bah oui, on trouve du tapioca partout.
Mais j'aime moins celle-là, je sais pas pourquoi.
Bah oui, moi non plus, je sais pas pourquoi. Il faudrait que tu sois plus précise. Parce sinon, je sais pas pourquoi j'irais pas l'acheter juste à côté de chez moi, le tapioca. Oui, on n'a pas parlé aujourd'hui de courses, et c'est un peu spécial parce que d'habitude on parle toujours de faire les courses, mais en fait c'est parce qu'on a envoyé Louise dans une boutique bien spéciale dont on parlera tout à l'heure, et elle va nous rapporter un reportage de cette boutique.
D'accord.
Donc j'ai mis le parmesan. Ouais. Alors voilà, donc ça fait une pâte encore plus.
Un
pâte.
Gros bout de parmesan.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On prend le moula cake.
Ok, d'accord.
On va prendre du film plastique. J'ai oublié de le dire au tout début qu'il en fait.
Mais j'ai du film plastique. C'est du film qui va aller à la cuisson ou qui va juste couvrir?
Non, ouais, juste couvrir.
D'accord, ok, super.
Nickel, quoi. Mm-hmm. Alors on en a tous.
Alors qu'est-ce que je fais avec ça, avec tout ça?
Donc on va tirer le film plastique et on va le mettre dans le moula cake. Pour,
En fait, tu veux que ce qu'il y a dans la casserole aille sur le film dans le moule.
Voilà, c'est ça.
C'est ça que tu veux. Donc ouais. On met un peu trop de film au-dessus, etc. Puis ça va tomber.
Exactement.
C'est pour ça qu'on beurre pas.
Exactement. It's the reason why we don't butter.
Ok.
Voilà.
C'est vrai que le faire en anglais, ça peut être intéressant. Non?
On peut essayer.
Ok, we put some plastic film on the moula cake.
Yes.
And then, je verse.
Then you can pour the entire.
Casserole.
Casserole.
Oh, yeah. Casserole, yes.
Oh, casserole.
You are from America, you can say, you can put
casserole.
French
casserole.
Word. Casserole.
Okay,
yeah.
I can pour all the casserole.
Yes.
Into the moula cake. Okay, nice. Nice, okay. Mmm, it smells good. Okay, and then?
Et ensuite, on fait des rabats avec le film plastique sur le centre du
moula cake. D'accord, on referme quoi.
Voilà.
On peut laisser déborder un petit peu comme ça ou il faut que ça soit net, net, net? Non, on rabat, on ouvrira après.
Oui, on ouvrira. Et puis de toute façon, le truc, c'est une pâte visqueuse là, donc ça prend vraiment la forme très naturellement du moula cake.
On laisse?
Alors on laisse refroidir là comme ça sur un
coin de table. Combien de temps?
On va dire une heure ou deux. Et après, on le met au frais, une nuit entière.
Ah, on pourra le manger que demain, ce truc-là?
Ouais. Mais j'ai ramené dans mon sac à dos la première partie déjà faite.
Donc, on laisse ça de côté et ça, ça sera pour demain.
Ouais.
Et qu'est-ce que... Je vois qu'il y a une suite dans la recette. Ça, c'est demain que je le ferai,
ouais,
alors, en fait?
Ouais, exactement.
Mais explique-nous ce que je ferai demain, puis après, on discutera. Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire
alors,
demain?
Alors, du coup, bah, magique, demain matin, au réveil, on court vers son réfrigérateur et là, on sort le moula cake.
Oui.
Et ensuite, on enlève le film plastique.
Oui.
Et là, on va s'apercevoir que la pâte visqueuse des billes de tapioca va s'être consolidée.
Ça fait un truc solide-solide.
Ouais.
Même à l'intérieur, partout.
Ouais.
Okay.
Enfin, semi-solide quand même.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on met toute la mixture froide ou chaude?
Mais chaude.
Elle est chaude à ce
elle
moment-là.
Elle est chaude tout de suite, on la met dans le film plastique.
Ouais.
Ça ne va pas créer de réaction avec le plastique et ce genre de choses?
Non, ça va. Okay. Ça ne va pas casser le film plastique.
Okay. Parce que ma mère me dit toujours ne pas mettre les aliments chauds dans les films, dans le film plastique, dans les... Comment ça s'appelle là, les...
Oui,
les...
c'est vrai.
Voilà.
Mais il faut quand même faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on peut laisser refroidir un petit peu quand même.
Okay.
Donc, l'idée, c'est qu'on fait chauffer 250 ml de lait dans une casserole. On incorpore 250 g de billes de tapioca. Quand c'est cuit, on râpe 250 g de parmesan dessus. On éteint le feu sous la casserole. On laisse tout ça refroidir un petit peu, que ça soit tiédasse.
On mélange aussi.
Et on mélange bien. Et on verse ça avant que ça soit solide sur le film plastique. Et après, on met au frigo pour la nuit entière. Et le lendemain, c'est dur comme du bois.
Pas exactement comme du bois, mais quand même dur.
Comme du bois mouillé.
Comme du bois mouillé. Ah. En fait, tu pourrais couper.
C'est comme un cake, en
comme
fait.
Un cake.
Comme un, ouais, exact. Voilà. Bah oui, en fait, c'est ça.
Très bien.
Mais sauf que comme les billes de tapioca, c'est quand même une texture chelou. C'est assez agréable à couper, en fait.
Alors j'ai une autre question. Est-ce que si t'es un gros flemmard et que tu veux pas attendre,
t'es quand même obligé d'attendre.
Ok.
Peut-être pas une nuit entière, quelques heures.
Ah bah, tu dois pas être mauvais à la cuillère hein, si tu veux te lancer là-dedans. C'est du tapioca avec du parmesan. Hein,
oui, mais parce qu'après, on fait frire le tout.
Ok. Oui, non, mais je dis s'il a envie de se gaver.
Non, pas me gaver, mais juste le refaire, mais faire le faire en deux heures dans un frigidaire.
Non, bah non.
Non,
ah,
ok.
Non.
Pardon, non, mais je.
Ah, peut-être, hein, peut-être que ceci dit.
Mais c'est plus rapide. C'est un gâchis d'énergie terrible, quand même, sérieusement, quoi. Prends le temps, mon vieux.
Non, non.
D'ailleurs, à ce propos, il y a un bouquin que j'ai pas encore lu, mais juste feuilleté, que j'aime trop, qui s'appelle The Missing Ingredient. Et c'est un essai culinaire qui dit que bah, c'est bien, on a de plus en plus envie de cuisiner rapidement, que ce soit pratique, machin, mais que quand même, on n'enlèvera rien au fait que les meilleures recettes, bah, l'ingrédient, c'est vraiment le temps.
Le temps.
Mijoter, faire réchauffer. Enfin, il y a un moment où on peut être dans le progrès comme on veut, on ne pourra pas supprimer ce facteur-là qui fait que les choses infusent, qui fait que les choses prennent du goût. Et ça, c'est typiquement l'ingrédient, enfin l'étape la plus longue, c'est ça, quoi. C'est le faire reposer nos dadignos.
Alors moi, j'ai le temps, hein, mais c'était juste peut-être pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'eux n'ont pas le temps ou n'ont pas envie de prendre le temps. Donc,
peut-être
voilà.
Un coup au frais, vraiment au congélo.
Je croyais que tu lui disais pas un coup. Je disais, mais merde, quand même, elle y va, quoi. Elle se jette, quoi.
Non.
Mais pète un coup. Ouais,
ok, bah, prenons le temps. Prenons le temps.
Ok, oh, je suis d'accord avec ça. Donc là, on va prendre le temps. Mais qu'est-ce que je fais demain? Je coupe en cubes, après ça, c'est ça?
Ouais, en cubes. Et ensuite, on va faire frire l'ensemble.
Frire?
Ouais.
Frire.
Mm. Friteuse, huile de colza, huile d'olive.
Si t'as pas de friteuse, tu peux faire ça dans une poêle avec
une
poêle.
Oh ouais, carrément. D'accord, ok. Ouais, c'est ce que je fais habituellement.
Okay. Comment on fait ?
Quelques centimètres, on va dire 3-4 d'huile.
Ouais, enfin beaucoup d'huile.
Beaucoup d'huile.
Il faut que ça soit couvert d'huile, les
ouais,
trucs.
Ouais, c'est mieux. Mais après, tu les laisses pas forcément longtemps. Mais c'est surtout pour les dorer.
C'est pas des churros, quoi, machin truc.
Ah non, non, pas du tout.
C'est pour ça que je me dis que peut-être avec de l'huile d'olive, ça ajoute un goût supplémentaire si tu le fais pas longtemps.
Peut-être.
En fait.
Ouais.
Mm. On fait chauffer l'huile beaucoup, du coup, si c'est frit. Et là, on met tout d'un coup.
Ouais.
Et on les retire quasiment tout de suite, en fait. Il faut juste qu'ils dorent.
Quelques minutes, voilà, pour le temps que ce soit un peu doré.
D'accord.
Comme ça, ça va faire fondre un peu le parmesan, souvenez-vous, qu'on a râpé à l'intérieur.
Oui, je m'en souviens, oui, quand même. Et il y a 5 minutes. Quoi. Là, quand même, ça va, jusqu'à là, j'y arrive, quoi.
Souvenez-vous.
Non, mais attends, on n'est pas en train d'enregistrer dans un EHPAD non plus, quoi. Tu vois.
Et c'est franchement délicieux.
Faut retirer l'excédent d'huile quand même.
Oui, bien sûr, la technique toute simple du papier absorbant.
Tu mets tout sur des papiers, d'accord. Mmh. Et après, je sers ça chaud, froid, comment ?
Tiède, avec des petites coupelles de sauce aigre douce à côté.
Ah, donc il vaut mieux que je fasse cuire ça un peu avant que les invités arrivent éventuellement ou qu'on, avant l'apéro, quoi. Pas
ouais.
Longtemps avant, quoi.
Pas longtemps avant. Mmh.
D'accord, donc c'est tiédasse et la sauce aigre douce, je l'achète, quoi.
Oui, on peut suivre le conseil de ma mère qui adore cette marque-là. C'est la marque avec le coq quand on va dans les épiceries asiatiques. T'as souvent plein de produits et...
Il y a une marque avec un coq.
Ouais, ça s'appelle Coq Brand, tout simplement. Et c'est décliné dans tous les produits possibles, toutes les sauces de poisson. Si un jour vous avez le choix dans une épicerie qui peut être un peu caverne d'Alibaba, là,
direct.
Okay. Visez le coq. C'est souvent la meilleure marque.
Parfait.
Si vous rentrez dans une épicerie asiatique qui ressemble à la caverne d'Alibaba... Suivez le coq.
Voilà.
Ouais.
Alice au pays des merveilles, mais version vietnamienne.
Petite incise dans le podcast, une fois n'est pas coutume, où nous allons parler d'une boutique particulière dans laquelle s'est rendue Louise. Et cette boutique, eh ben, c'est Émilie elle-même hein, qui l'a choisie. C'est celle d'Antoine, caviste rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est pratique. Ouais, okay. Ça s'appelle les caves Saint-Martin. Là, c'est plus compliqué, du coup. Mais dans le 10e. Pourquoi cette boutique ?
J'avais jamais... Pardon, j'ai un bug total. J'avais jamais remarqué qu'Antoine, c'était rue des... Mais non, en fait, c'est pour ça. C'est
Saint-Martin.
Rue du Faubourg Saint-Martin.
Ah. D'accord, bah, les caves Saint-Martin, c'est pour ça, du coup.
Ah, oui.
Oui, c'est pour ça.
Pourquoi cette boutique ?
Parce que j'adore Antoine, qui conseille super bien les vins. Il en parle toujours avec beaucoup de
détails.
Mais
tu bois du vin, toi ?
Ouais.
Qu'est-ce que t'aimes ?
Elle adore le vin, je confirme.
T'adores le vin ?
Je la suis sur Instagram, elle parle que de vin, presque que de vin. Non, beaucoup de vin, en tout cas.
Beaucoup de vin, beaucoup de vin.
Je me suis demandé
bouffe.
Même à un moment si t'étais pas reconverti en journaliste...
Vinologue.
Ouais.
Mais non, œnologue.
Journaliste sommelière.
Sommelière.
Ouais. Parce que tu en parles beaucoup, c'est quand même un sujet...
Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'en parle beaucoup, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est trop chouette d'ouvrir des bouteilles avec des potes. J'aime beaucoup la bière aussi, hein. N'oublions pas que je suis née à Lille, je suis une vraie ch'ti. Ouais. Mais ce que j'aime bien avec les...
Bah, on l'avait complètement oublié parce qu'on en avait pas parlé. Mais
oui, c'est vrai.
Maintenant, on
n'oubliez
le sait.
Pas.
Hey, n'oubliez pas que je suis née à Lille, dit. Je suis une vraie ch'ti.
Qui habite à Marseille maintenant.
Ouais.
Ouais. Non, mais ouais, ce que j'aime bien, c'est que ça raconte plein d'histoires. Enfin, la bière, ça peut être.
Non,
ça se boit un
vin,
peu plus
là.
Vite, quoi.
Ah oui.
Et le vin, tu vois, il y a un truc où tu te plonges dans les cépages, tu te.
On sent les Japonais qui sont venus au Brésil apporter leurs petites grappes de raisin.
Mais les Japonais font du vin maintenant.
Ouais.
Ouais.
On va faire les coucou. Les coucou. On va faire les courses.
Ok, je fais des petits tests son, je pense qu'on est bon. Alors nous sommes aux caves Saint-Martin. Aujourd'hui nous cuisinons des dadinhos. Ce sont des petits croquants de tapioca, typiques du nord-est du Brésil et qui se mangent à l'apéro. On en manque un peu en ce moment d'apéro. Et voilà, et ça fait plaisir d'être ici. Hop. Bonjour. Merci de nous donner un peu de votre temps. Donc, je vais juste d'abord vous demander de vous présenter à nos auditeurs.
Bonjour, je m'appelle Antoine Guéguin, je suis le gérant des caves Saint-Martin depuis maintenant 12 ans.
Comment est-ce qu'on devient caviste ? Est-ce qu'il y a des études, un intérêt pour le vin ?
Alors, il y a forcément un intérêt pour le vin, ça c'est évident. Moi, je viens d'une génération où il n'y avait pas d'école encore de caviste, mais maintenant ça existe, donc c'est un petit peu plus facile. Et puis, je dirais que les marchands de vin, il y a un engouement pour les marchands de vin, donc ça a suscité des vocations et donc ça a créé des écoles et tout ça. Moi, c'est un petit peu par hasard, hein. En fait, j'étais manutentionnaire dans une cave et j'ai découvert le vin comme ça et donc je me suis orienté vers ça, quoi.
Et du coup, ici, vous avez combien, alors ça va être un mot brusque peut-être, mais sorte de vin différent.
On a à peu près 400 références. Il doit y avoir une bonne grosse cinquantaine d'alcool. Peut-être même une petite centaine avec les dérivés du vin, la bière, le saké, tout ça. Et puis ensuite, on doit avoir facile 300-350 références de vin. Ouais.
D'accord. Ouais, ouais. Vous avez aussi des vins étrangers ?
Ouais, bien sûr, on a quelques vins étrangers. On a des importateurs qui travaillent très très bien et qui nous dégotent des vignerons étrangers un peu de la nouvelle génération qui travaillent en biodynamie, voire nature. Donc c'est vraiment sympa. Donc là, on fait en plus plein de découvertes, donc ça, c'est chouette. Et puis ici, peut-être aussi la particularité, c'est qu'on a beaucoup de magnums, ça, c'est ouais. Plutôt chouette. Et puis, pour la plupart, on connaît bien les vignerons, quoi. Hein.
Ouais.
Voilà.
Et puis c'est aussi, enfin moi en tout cas, en tant que consommatrice, j'en vois beaucoup, c'est le vin bio aussi. Ouais. Ça devient quelque chose qui est assez courant, de plus en plus. Mm-hmm. Donc je ne sais pas si vous en vendez aussi ici, si ça vous intéresse ou...
Ouais, bien sûr, ouais. Mais les gens même avec qui on travaillait avant qu'ils n'étaient pas, le sont devenus. Ouais. Donc en fait, il y a un vrai engouement pour ça. Ce n'est pas du Covin, hein, c'est un peu partout, c'est dans tout. Hein. Ouais, ouais. Hein, c'est vraiment exponentiel et évidemment, le vin n'y échappe pas. Après, c'est un sujet très, très vaste. Hein. Il y a des industriels qui se sont engouffrés là-dedans en faisant du bio. Et les lobbies ont fait en sorte aussi de pouvoir... faire un peu ce qui leur arrange, ce qui les arrange sur le sur les lois qu'il faut et tout ça, quoi, sur les limites de dose et compagnie, quoi. Hein, c'est toujours un peu le même c'est toujours un petit peu la même histoire. Donc nous, on va se tourner plus vers des gens qui font avec leurs moyens. Généralement, c'est plutôt des métiers de passion, hein, la vigne, et donc c'est des gens qui vont appliquer des choses de bon sens. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin, l'objectif n'est pas la rentabilité, l'objectif il est d'appliquer des choses de bon sens, y prendre du plaisir et surtout faire quelque chose de sain, quoi. Malgré qu'il y ait de l'alcool. Ouais. Et faire quelque chose sain, non pas que pour le consommateur, sain pour tout ce qui l'entoure, quoi. Voilà.
Et alors, question très très vaste, qu'est-ce qui selon vous fait un bon vin ?
Un bon vin, c'est un vin équilibré. C'est un vin équilibré, un vin qui exprime aussi sûrement là d'où il vient, et puis un peu de celui qui l'a fait, quoi. Hein? Voilà, ça c'est, je pense que c'est si on réunit les trois, c'est-à-dire le terroir, la pâte et l'équilibre de tout ça, on a un bon vin.
D'accord.
On a un bon vin.
D'accord. Et du coup, dernière question, budget étudiant oblige. Qu'est-ce que vous me conseillez comme vin à 10-15 euros max ?
Alors,
que je prends, vaste. Évidemment.
C'est très vaste, parce que comme c'est vous qui allez prendre la décision de valider ce que je vais vous conseiller dans les 300 et quelques références, quoi qu'elles ont, elles sont pas toutes entre 10 et 15 euros, c'est vous qui allez le valider. C'est-à-dire, je vais vous poser la question si vous les préférez un peu clair, un peu léger comme ça, ou si vous préférez au contraire quelque chose de bien sombre, un peu tannique.
Plutôt léger.
Plutôt léger, très bien. Et ben, je vais aussi poser une autre question, pardon. Est-ce que vous êtes sensible à la biodynamie ? Est-ce que vous recherchez un vin naturel, un peu surprenant ? Ou au contraire, vous voulez quelque chose de plutôt plus conventionnel, entre guillemets, ou,
Surprenant, moi je vais être surprise, oui.
Ah ben, super. Et ben, à ce moment-là, je vous emmène dans le domaine Johan.
Domaine Johan.
En Ardèche. Et je vous conseille un muscat. Vous ne m'avez pas demandé la couleur, donc j'en profite.
C'est du blanc.
Voilà. Et là, pour le coup, c'est un blanc. C'est et bien, je l'avais senti.
Ah. Généralement, on préfère le blanc. Je ne sais pas pourquoi.
Et c'est un muscat qui est sans sucre. C'est intéressant. Le muscat est très connu pour ses vinifications sucrées. Et là, en fait, c'est sec. Okay. Donc, on profite un peu du côté... je dirais exotique du cépage et en même temps quelque chose de très frais, facile à boire, quoi.
D'accord.
Voilà ce que je conseillerais.
Eh bien, je vous l'apprends.
Allez.
Soit je l'offre à mon boss, soit je garde pour moi. On verra.
Soit vous
le
ensemble.
Très bien, ça c'est encore mieux.
Pas mal ça.
Tu as entendu Vincent, on partage. Merci beaucoup, merci à vous.
On revient des coucou courses. On revient des coucou courses. Les bras chargés de vip, 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 v victoire.
Bon, bah alors ça, c'était le reportage de Louise chez Antoine, le caviste préféré, enfin l'un des cavistes, parce qu'elle en a d'autres. Maintenant qu'elle est à Marseille, je pense que ça doit cavister là-bas. Hein.
Tout à fait. Okay. Ça caviste fort.
Qui commence ?
Qui commence ?
T'as un truc de conseil culture, toi, Émilie, ou pas du tout ?
Ah, j'ai pas préparé ça.
Ah, bon, d'accord, bah, attends, bah, on va commencer par Wael, vas-y.
Ok, je vous conseille le nouvel EP de La Chica, qui s'appelle La Loba. C'est très beau. Elle a grandi à Belleville. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai découvert... Enfin, j'ai pas découvert, c'est que c'était mon animatrice de colonie de vacances quand j'étais jeune.
Oh, trop mignon. Mmh.
Et voilà.
T'as pas fait de trucs bizarres, non ? Parce que c'est le moment de le dire. Moi, non, tout le monde parle. Hein.
Non, pas du tout. C'est
non, mais je te demande.
Non, pas du tout.
Parce que ça arrive, tu sais.
Je sais, mais ce n'est pas ça.
Mais moins dans ce sens-là, quand même, je pense.
L'absence de consentement, c'est un truc qui marche dans les deux sens. Après, on sait aussi que, en général, c'est quand même en majorité plus des agresseurs hommes. Il y a des statistiques.
Bah, clairement, non.
Enfin, oui, carrément, très très largement. Ouais.
Et pourquoi on parlait de ça d'ailleurs ?
Bah, je sais pas pourquoi.
Je sais pas du tout. Mais j'ai arrêté.
Si, parce qu'on parlait de conseil culturel et t'étais parti sur. Toi
sur.
Ah oui, La Chica.
Oui, mon conseil culture, La Chica, son nouvel EP qui s'appelle La Loba.
Ok.
Tu connais ?
Non.
C'est très bon.
Mais j'écouterai.
Ouais. Envoie, vas-y, donne-nous un conseil culture, toi. Quel art culturé ?
Bah, on parlait du chlordécone tout à l'heure. Vous pouvez aussi lire la bande dessinée Tropic Toxic qui parle du chlordécone. Alors, moi, ce que j'aime bien avec cette BD, parce que c'est une BD, un roman graphique, c'est que ça t'explique super clairement ce truc qui est quand même un peu, qui peut être compliqué à comprendre, un peu lourd, cette histoire de pesticides. C'est écrit par Jessica Oublié. Elle a fait un travail d'enquête magnifique. Ça donne 200 pages super belles avec des témoignages, de la photo, un joli dessin, et ça explique super bien. Et je pense que c'est aussi le pouvoir de la BD graphique, c'est que tu n'offrirais pas forcément un essai sur le chlordécone à ton cousin.
Non, c'est chez quel éditeur, tu sais, ou non ?
Là, comme ça ne me vient plus.
Bon, c'est Jessica Oublié,
ouais.
Et ça s'appelle ?
Tropic Toxic, et c'est une BD sur le chlordécone, le pesticide.
Sortie l'année dernière, c'est ça ?
En octobre dernier, ouais.
Ok.
Très bonne BD.
On était avec Émilie, on était bien content d'être avec Émilie. On va goûter son truc, mais ça vous saurez même pas quel goût ça a, parce que nous on va goûter, puis vous aurez qu'à vous débrouiller.
Ouais, c'est très très simple à faire. Hein. Ouais. Et quand même, le coût, temps passé, ingrédients et kiff est très fort.
Écoutez Bouffon, qui est le podcast où il y a Émilie, même si c'est pas vraiment le podcast d'Émilie, mais c'est un podcast où il y a Émilie, mais parce qu'il y a d'autres gens qui interviennent. Ça parle de cuisine, mais ça parle de cuisine et de société. Par exemple, on pourrait apprendre dans Bouffon que les Japonais sont allés au Brésil
et au Pérou.
Et au Pérou.
Et au Pérou.
Mmh. Bien sûr, ouais. Pérou. Il y a aussi des gens du Tibet qui sont allés au Pérou.
Aussi.
Voilà, je l'ai pas cette vanne.
Tu l'as pas ?
Non.
Les lamas.
Ah.
Ah, tu... Oui.
Bah okay. Oui. Quoi, tu l'as toujours pas ?
Non. Bah. J'ai mal dormi.
Non, mais le lama, c'est un animal. Mmh. Et le lama au Tibet, c'est aussi le... C'est
ah
le...
oui, d'accord. Tu okay.
C'est, un peu, ouais. C'est un peu l'évêque local, quand même.
Ok, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Mmh. Oui, bien sûr.
Ok.
Goûter, hein, c'est quand même le plat préféré de Jean-Pierre Chevènement.
Wow.
Mais comment tu sais cette information ?
Non, non, c'était une blague.
Ok, d'accord.
D'accord, si c'est une blague, comment tu sors Chevènement, quoi ? Dans ta blague ?
Je sais pas, je...
Non, mais d'où il vient ?
Mais elle a dit
pas.
Qu'elle faisait beaucoup de blagues dans sa vie, pour être intéressante. Donc, musique, blague, musique. Journalisme, musique, blague.
Ouais.
Cuisine.
Espèce de sandwich comme
et
ça.
Vin.
De... Voilà. Et vin aussi.
Ok, ben, merci Wael, merci Émilie.
Merci Vincent, merci Wael.
Merci.
Le saviez-vous ? Tout ce qui est là n'est pas forcément là.
C'était une émission du Poste Général.